Hey, j'ai entendu un bruit. Je crois que la voisine s'est encore pris le mur en rentrant sa voiture. Ils étaient pas partis en vacances.
Ah, t'as entendu? Ben, on en reparle après la JT du local.
Les naissances sont des événements que l'on fête et que l'on souhaite à notre image. Est-ce que le jour de notre mort ne pourrait pas l'être tout autant? Est-ce que ce jour si particulier ne pourrait pas être un jour qui m'aide à me projeter moi-même dans ce qui arrivera après mon départ? Et finalement, est-ce que le préparer n'est pas la bonne occasion pour aborder ce sujet avec mes proches? Parce que oui, ce n'est pas forcément un sujet que l'on aborde classiquement, et pourtant. Mon invité d'aujourd'hui justement représente aujourd'hui le collectif Nos Funérailles. À mes côtés, Jésabelle Coguyec. Bonjour Jésabelle.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous organisez la soirée de lancement du collectif le 19 avril à 20h au studio à Laval. On parlera ensemble de ce nouveau collectif et de ce que vous souhaitez apporter aux Mayennais sur ce sujet que l'on aborde probablement de plus en plus, mais peut-être pas encore suffisamment. Lise et Lucie, vous êtes avec moi tout au long de cette émission. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Margot.
Bonjour.
Tout à l'heure, vous nous faites un point sur l'actualité et puis un point météo. On ne baisse pas les bras, on mise tout sur vous pour l'annonce d'une bonne nouvelle. Il va être temps puisqu'on n'aura bientôt plus les mots pour parler des nuages gris et de la pluie, je crois. Donc dans la suite de cette émission, on retrouve notre reportage Pensée Locale. Et cette semaine, on se rend non loin de Nantes, dans le quartier de Bellevue, dans lequel s'inscrit un très grand projet de renouvellement urbain. Ici, la question de détruire ou rénover fait débat. Jessie Markenzet de Jet FM s'est rendue sur place. Et l'émission se terminera avec toujours le sourire au coin des lèvres. Faut-il rire ou pleurer quand on parle du droit en France? Avec notre chroniqueuse Priscilla, le choix est vite fait, vous la connaissez maintenant. Mais je vous le disais, aujourd'hui nous parlons du collectif Nos Funérailles avec Jésabelle Coguyec. Il s'agit donc d'un tout nouveau collectif qui fait sa soirée de lancement le 19 avril au studio à Laval. Et alors Jésabelle, comme on parle d'un collectif, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelques mots sur les membres de ce collectif et quelle est l'origine de ce projet?
Alors, nous sommes quatre, Vincent Ruche, Sylvie Rossignol, Marie-Claude Girard et moi-même, avec tous comme dénominateur commun d'être des citoyens mayennais, sensibles à la question de la mort et des funérailles, et notamment par rapport à différents ingrédients qu'on a pu injecter dans des cérémonies à titre personnel avec nos pratiques respectives, puisque Vincent est musicien, il a été amené à être sollicité pour des cérémonies. Marie travaille autour des plantes, plantes sauvages. Elle a été aussi amenée à accompagner des familles pour leur transmettre que, effectivement, c'était possible de ramasser des fleurs du jardin du défunt ou même des fleurs sauvages et de composer ensemble ce qui allait être les fleurs autour de la tombe ou autour du cercueil.
Donc c'est un moment où vous vous êtes retrouvés tous, parce que c'est aussi une bande d'amis, je crois même.
Non, pas forcément. En fait, je fais partie d'un autre collectif qui est plutôt régional au départ, qui s'appelle le collectif Mortel. Et à ce titre, j'ai animé plusieurs cafés mortels dans le sud Mayenne. Et ils ont tous les trois été des participants de ces cafés mortels. Et c'est suite à ça qu'ils se sont dit, il y a vraiment, c'est à nous de pas seulement venir en spectateur à des cafés mortels, mais de s'emparer de ce sujet. Et puis avec l'envie de fédérer vraiment un collectif de Mayennais et dans un idéal, dans un rêve, qu'ils pourraient, si il y a pas mal de monde à venir à cette soirée de lancement, il pourrait y avoir un petit peu comme ça des ambassadeurs du sujet aux quatre coins du département.
Parce que la mort, finalement, c'est un sujet plutôt tabou aujourd'hui. Il y a certains malaises peut-être dans notre société à se projeter dans sa propre mort ou même celle d'un de ses proches. Est-ce que vous ressentez ça, vous, Jésabelle?
Oui, oui, oui. Puis nos imaginaires sont limités. Du fait aussi que avant finalement on s'en remettait à l'église par rapport au rituel à effectuer et puis aujourd'hui il y a un vide un peu spirituel, mais il y a aussi un vide d'imagination et on pense qu'il y a une marche à suivre qui nous est imposée. Alors effectivement, il y a un cadre légal avec ses contraintes, mais au sein de ce cadre, il y a tout un champ des possibles. Et nous, notre volonté, c'est vraiment d'ouvrir ce champ des possibles et d'ouvrir les imaginaires pour que les citoyens puissent se réapproprier ce moment de vie, puisque c'est un moment de vie.
Justement, j'allais poursuivre avec votre collectif qui dit justement cette phrase « La mort est notre avenir, réapproprions-nous-la ». Finalement, c'est effectivement très parlant. La mort, c'est quelque chose qu'on laisse beaucoup aux institutions. On parlait de l'Église tout à l'heure. Aujourd'hui, peut-être qu'on le laisse beaucoup aux institutions, aux chambres funéraires, en se disant « Bon, c'est pas notre affaire, mais c'est pas nous qu'allons tout organiser. »
Bah, de toute façon, on est obligé de passer oui, par les pompes funèbres. Maintenant, en fait, on n'est pas obligé d'accepter toutes les contraintes. Y a des choses qui relèvent de la loi, mais il y a tout un tas de choses qui sont possibles et que l'on ignore, en fait.
On connaît peu justement toutes ces possibilités qui s'offrent à nous et à la famille concernant cette cérémonie. Et avoir l'opportunité de le penser avant, ça peut faciliter le jour du décès pour les proches qui restent derrière, se dire tiens, il y a eu des souhaits formulés. Finalement, c'est un chemin qu'on peut prendre et c'est aussi dans le processus du deuil une possibilité d'avancer en se disant, tiens, on respecte encore, on prend encore soin de cette personne qui vient de partir.
Exactement. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de dégâts qui découlent en fait de ces cérémonies avortées ou ratées. Et quand les familles ou les amis ont le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien, qui ressemble à la personne, on se rend vraiment compte que on commence son chemin de deuil avec beaucoup plus de sérénité.
L'objectif est de redevenir acteur finalement et de ne pas être juste spectateur de ce qu'il se passe.
Oui, exactement.
Et donc on l'a précisé, donc il y a un cadre légal, ce sera aussi l'occasion le 19 avril de repréciser ça, mais d'aller au-delà en voyant toutes les autres possibilités malgré tout qui s'offrent à nous. Et le collectif s'inscrit aussi plutôt dans un cadre laïque en l'occurrence.
Oui, tout à fait. Ce qui n'empêche pas que la question religieuse vienne dans la discussion, mais en tout cas c'est pas ce qu'on est en capacité nous de transmettre. Et d'ailleurs je dis transmettre, mais il s'agira pas d'une soirée avec un cours magistral. C'est prévu comme étant très ludique, très festif. On a imaginé des quiz, des petits ateliers. Il y aura de la chanson, il y aura des fleurs sauvages, bien sûr. Mmh. En fait, il y aura tous les ingrédients qui sont des ingrédients possibles pour des cérémonies. On ne va pas juste se contenter d'en parler, on va faire en sorte que ces ingrédients soient présents aussi dans la soirée.
Justement, je le rappelle, donc, cette soirée de lancement aura lieu le 19 avril au studio à Laval. Ça commence à 20h. Et donc, il y aura également la présence d'un conseiller funéraire. Il y aura la présentation d'ouvrages également qui abordent cette thématique-là. L'idée, c'est d'avoir un temps vraiment convivial, joyeux pour aborder cette question-là en toute simplicité, finalement.
Exactement. Oui, oui, on a un partenariat avec la librairie Emlir qui nous mettra à disposition des ouvrages, aussi bien des essais que de la littérature, de la BD. Enfin voilà, on n'est pas vraiment pas dans la conférence. Et à l'occasion de cette soirée, on a aussi prévu de distribuer une plaquette. On a essayé pour l'instant, le travail du collectif, ça a été beaucoup autour de la création de cette plaquette, puisqu'on a essayé de résumer de manière assez simple tous les possibles qui s'offrent à nous une fois qu'on est mort. Donc on a essayé de faire quelque chose d'un peu ludique et de suivre le chemin du mort. Voilà, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'on peut le veiller, où est-ce qu'on peut le célébrer, de quelle manière, qu'est-ce qui est possible, enfin voilà.
Oui, parce que finalement, il y a différentes étapes. Quand il y a un décès, il y a le moment de la mort, où est-ce que le corps reste. Et par exemple, j'ai appris qu'il est encore possible aujourd'hui de laisser le corps à domicile. C'est quelque chose qu'on ne fait plus finalement, mais qui était très courant avant.
Exactement, et on ne le fait plus parfois par méconnaissance. Moi, je me rends compte en discutant avec des personnes que les gens ne se posent plus la question et ont presque intégré qu'il n'y avait pas le droit. Enfin, au bout d'un moment, quand en fait, les habitudes se perdent, on pense que c'est parce qu'il y a un interdit. Et en fait, c'est juste que l'usage se perd, mais il y a quelques conditions à respecter pour garder le corps à la maison, mais qui sont pas très contraignantes. Mmh. Et on sait aussi que il y a plein de bénéfices à opter pour cette chose-là, puisqu'on peut faire des veillées, on peut continuer à manger autour du corps du défunt, chanter des chansons, réciter des poèmes, enfin ce qu'on veut. En tout cas, ça permet de dire au revoir tranquillement à la personne. Et on sait que ces quelques jours de présence du corps peuvent justement permettre à l'entourage de réussir à se détacher physiquement.
Et donc il y a effectivement du décès jusqu'au moment de la cérémonie. Il y a également, par exemple, j'ai appris la possibilité d'organiser cette cérémonie, par exemple, en forêt ou au bord d'une rivière. C'est quelque chose qu'on ne voit pas non plus, en fait.
Non, alors il y a le cadre légal, c'est-à-dire que le corps passera forcément un moment soit au cimetière, soit au crématorium. Mais au-delà de cela, on peut très bien imaginer des cérémonies en pleine nature ou dans le jardin de la personne. Enfin, y a plein de possibles, en fait.
C'est là où on se rend compte, vous nous le disiez tout à l'heure, qu'on a un imaginaire qui est finalement bridé concernant ce moment de vie, ce moment d'au revoir aussi. Et donc, c'est important de se rendre à votre soirée de lancement le 19 avril, qui permettra peut-être aussi de poser des questions. C'est vraiment un temps d'échange.
C'est un temps d'échange. Et puis, par rapport à ce que tu dis, en fait, c'est un peu... comme un enfant, c'est-à-dire si on a un imaginaire pauvre, c'est qu'on nous a raconté peu d'histoires. Là, nous, on a aussi envie de remettre des récits de cérémonies, justement, qui se sont passées autrement, qui se sont bien passées, où il y a eu de la beauté, où ça s'est fait dans des beaux endroits. Enfin, en fait, c'est aussi en rouvrant nos imaginaires qu'on peut continuer à inventer d'autres choses.
D'ailleurs, on le voit, il y a d'autres cultures où finalement, ce moment est un moment plutôt festif, donc finalement, c'est possible et tout est à imaginer et ne pas hésiter à échanger justement autour de cette thématique. Il y aura, donc je le disais, un conseiller funéraire de présent, il y aura de la musique, il y aura des fleurs, donc ça se passe le 19 avril au studio à Laval. Comment ça se passe pour s'y rendre? Est-ce que l'on réserve?
Il n'y a pas besoin de réserver et la participation est libre. Donc il n'y a pas de billetterie. Voilà.
Donc c'est un temps où il y aura l'occasion de poser des questions, mais peut-être de rester en retrait, puisqu'il y a encore des gens pour qui peut-être ce n'est pas forcément évident de prendre la parole.
Il n'y a pas de contraintes, il n'y aura pas de forme imposée. On peut venir très bien... En spectateur, et puis vraiment, on est dans l'échange, on est dans quelque chose qui se veut ludique, et voilà, c'est pas une conférence.
Et donc, pourquoi pas finir par devenir ambassadeur? C'est un très très beau projet. Merci Jésabelle d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Et donc, je le rappelle une dernière fois, le rendez-vous c'est le 19 avril au studio à Laval. Ça commence à 20h. Merci Jésabelle. Je vous propose maintenant une pause musicale. On écoute Nerlove et son titre Quel dommage.
Fasse mon avis. Heureusement que t'es beau. fait bien flipper. Y'a pas un texte que je trouve intéressant. Toujours la même, sur de bons sentiments. Je sais pas où ça va, mais ça sera pas heureux. Triste pour les enfants, ils méritent un peu mieux. Quel dommage.
Et place maintenant à un peu d'actu en bref. Par quoi on commence, Lise, aujourd'hui ?
Eh bien, on commence avec le renouvellement d'une aide financière par le département de la Mayenne. 2000 euros, c'est ce que peut toucher un Mayennais qui entreprend des études de santé. L'objectif est clair, encourager les jeunes à se lancer dans le domaine médical. Les intéressés ont jusqu'au 31 mai pour en faire la demande. Et investir dans le médical en Mayenne, ça passe aussi par le troisième contrat local de santé. Lucie, peux-tu nous en dire plus ?
Effectivement, il a été signé ce mardi par l'Agence régionale de santé, le Conseil départemental et Mayenne Communauté. Chaque année, pendant 3 ans, Mayenne Communauté touchera 20 000 euros de la part de l'ARS et 10 000 euros de la part du Conseil départemental. Pour Laurent Souchet, coordinateur du contrat local de santé, cet engagement a de nombreux objectifs comme par exemple, je cite, « améliorer l'accès aux soins, développer l'attractivité et encourager le bien vieillir ». Et en ce qui concerne l'éducation, qu'est-ce qui est proposé, Lise ?
Depuis ce lundi à Évron, 9 personnes sont accueillies en classe préparatoire, accompagnement éducatif et social, ou AES pour faire court, pour préparer leur intégration à la formation AES qui commence en septembre 2024.
Et qu'est-ce qu'on peut faire en sortant de cette formation AES ?
Eh bien, on peut accéder aux métiers du social et de l'autonomie, comme aide-soignant, assistant de vie aux familles, etc. D'ailleurs, la classe préparatoire, elle est financée par la région Pays de la Loire et s'adresse aux personnes diplômées ou non, ou celles et ceux au RSA.
Ça peut donner des perspectives et en parlant avenir, à Lassay-les-Châteaux, c'est aussi possible de se projeter. Un temps est organisé pour avoir un avant-goût du futur pôle culture jeunesse de Lassay-les-Châteaux donc. Ça s'appelle Le Chant du Printemps et ce sera un concert dessiné qui va rassembler sur scène l'Orchestre Symphonique de Haute-Mayenne et Adrien Thiot-Rader, dessinateur et auteur. Et ce moment est organisé par les 3 futurs occupants du pôle, à savoir la médiathèque, le conservatoire et l'espace jeune. Pour y assister, on vous donne rendez-vous ce samedi 13 avril à la salle multifonction, rue de Châtenay, à 16h à Lassay-les-Châteaux. C'est gratuit et sur réservation à symphonique-haute-mayenne.fr. Côté météo, le ciel sera couvert tout l'après-midi dans tout le département, mais les températures seront douces. Il fera entre 16 et 18 degrés et en soirée, un peu de brume est annoncé avec un ciel bien plus dégagé pour une grande partie du territoire. Les températures, elles, chuteront aux alentours de 9 degrés. Et dis-nous Lise, est-ce qu'on aura un peu de soleil demain ?
Demain, il faudra surtout rester prudent parce qu'il y aura beaucoup de brouillard dans la matinée. Mais oui, on aura enfin du soleil et ce, tout l'après-midi, avec des températures situées entre 19 et 21 degrés. La soirée sera elle aussi très très douce puisqu'il fera entre 16 et 18 degrés.
Merveilleux, de quoi bien entamer le week-end, ça va enfin être l'occasion pour Pascal de sortir sa belle chemise hawaïenne à manches courtes qu'il a chinée le week-end dernier.
Merci les filles pour ces bonnes nouvelles. Détruire ou rénover, le quartier de Bellevue à la croisée de Nantes et de Saint-Herblain fait l'objet du plus important projet de renouvellement urbain de la métropole. Au total, ce sont 515 logements sociaux qui vont être détruits et 1300 réhabilités. Mais dans une métropole touchée par une crise du logement, la déconstruction fait débat quand d'autres villes choisissent la rénovation ou la réhabilitation. Et oui, pour notre reportage Pensée locale de la semaine, Jessie Mackenzie de JetFM attend son micro à Maximilien Steindorson, géographe, chercheur associé au laboratoire Espace et Société à Rennes et également chargé de mission à Réseauville, centre de ressources politiques de la ville en Bretagne et Pays de la Loire. Écoutez.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Aujourd'hui, nous sommes sur la place Mendès France, à la croisée de Nantes et Saint-Herblain, au cœur de Bellevue. Ce quartier prioritaire fait l'objet d'un grand projet de renouvellement urbain, comme 480 autres en France. L'objectif ? Améliorer la qualité de vie et la mixité sociale. C'est dans cet objectif que la place Mendès France Bellevue s'est métamorphosée ces derniers mois, avec notamment la démolition de deux grands ensembles datant de la fin des années 60. Au total, ce sont d'ailleurs 515 logements sociaux qui vont être détruits sur le quartier et 1300 réhabilités. Dans une métropole touchée par une crise du logement, près de 40 000 demandes de logement social en attente, pourquoi déconstruire plutôt que de rénover ou réhabiliter ? Nous avons posé la question à Maximilien Steindorson, géographe et chercheur, également chargé de mission à Réseauville, centre de ressources politiques de la ville, en Bretagne et Pays de la Loire.
En Pays de Loire, il y a, on va dire, quasiment toutes les grandes villes qui ont au moins un programme de renouvellement urbain comme ici à Bellevue. Et il y a, donc, selon mon comptage, 2740 logements qui sont concernés par des démolitions sur l'ensemble des Pays de Loire. En gros, on peut considérer que ça concernera au moins 5000 personnes sur l'ensemble de la région. Dans les années 90, il y a eu des difficultés en France qui ont entraîné un accroissement de la pauvreté, et notamment dans les quartiers populaires qui ont été plus lourdement frappés. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit que la politique qui était conduite dans les quartiers populaires n'était pas forcément adaptée parce qu'on n'arrivait pas à avoir des résultats. Et donc on a changé un petit peu le paradigme en se disant que peut-être que finalement c'était les quartiers de grands ensembles dans leur conception qui posaient problème. Parce que parfois mal fait, parfois un peu isolé du reste de la ville, souvent concentrant des taux de logements sociaux très importants. Donc un certain nombre de problématiques spatiales, ce qu'on appelle l'effet quartier, exacerbe les difficultés sociales des habitants qui y sont. Donc à partir de ce moment-là, on se dit que c'est l'action urbaine qui doit primer. Et donc on vise 200 000 logements en France à démolir. 160 000 vont être démolis entre les années 2000 du coup et 2020, on va dire à peu près. Pourquoi démolir ? Donc ça, c'est la question qu'on peut se poser. La démolition, déjà, c'est une puissance symbolique, ça se voit. Et donc ça, ça a marqué quelque part symboliquement l'engagement de l'État à travailler dans ces quartiers, dire on fait quelque chose. Le deuxième aspect, c'est celui du lien. C'est-à-dire qu'en démolissant, alors des fois c'est pour faire passer une route, des fois c'est aussi parce qu'on a des grandes barres ou des grandes tours qui sont juste à côté de quartiers plus résidentiels. Et donc du coup on veut démolir pour dédensifier. Donc en somme, le grand ensemble exclu, du coup on va le démolir en partie pour inclure le reste qu'il en reste au reste de la ville. Alors ça peut marcher dans le sens où effectivement il y a des représentations très négatives sur cette architecture de grands ensembles, toutes les représentations qu'on associe à la pauvreté, la violence urbaine, etc., etc. Et puis, le dernier aspect, c'est la qualité. Dans certains quartiers, il est vrai que les logements qui ont été produits étaient soit de mauvaise qualité, soit les bailleurs qui y ont travaillé les ont moins bien entretenus qu'ailleurs parce qu'ils avaient des difficultés économiques ou autres. Et donc, les réhabilités étaient trop compliquées, trop coûteuses, donc ils étaient voués à la démolition.
Dans le cadre du Grand Bellevue, un immeuble rue Romain Rolland, rénové en 2009 et en bon état, fera l'objet d'une démolition. Entre une transition écologique nécessaire et une crise du logement criante sur la métropole, cette démolition se heurte à de fortes résistances.
Et c'est ça qu'on a oublié, c'est l'approche sensible, c'est de se dire que derrière ces immeubles pourris, il y a des vies. Finalement, les gens qui se retrouvent dans ces logements-là, à la fois, ils ne peuvent pas, pour certains, loger ailleurs. Et en plus, on leur renvoie le fait qu'ils habitent là, c'est comme s'ils s'excluaient du reste de la ville. Pour un logement démoli, social, il faut en reconstruire. Ça, c'est obligatoire. Ça veut dire qu'il faut faire un effort financier pour compenser la démolition. Et donc cet effort financier ne peut pas être fait pour en construire de nouveaux. Alors qu'on est dans une situation où là, à Nantes, il y a presque 40 000 demandeurs de logements sociaux en attente. Et par exemple, la métropole de Rennes, dans son programme de rénovation urbaine, elle a choisi de quasi pas démolir. Il y a vraiment un choix très ambitieux de leur part de garder tout le parc de logements, de le réhabiliter avec beaucoup d'investissements.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage de Jesse McKenzie pour Jet FM.
Et nous voilà de retour avant la chronique de Priscilla. Lucie, tu nous proposes d'écouter une artiste qu'on aime beaucoup, je crois.
Tout à fait. Et en fait, comme on a toutes et tous envie de prendre soin de notre corps et notre tête, à défaut de vous donner des conseils nutrition, je vous propose tout simplement d'écouter Pomme et sa reprise du titre « Qui a tué grand-maman » de Paul Naref.
Il y avait du temps de grand-maman, des fleurs qui poussaient dans son jardin. Le temps a passé, seules restent les pensées, et dans tes mains, il ne reste plus rien. Qui as-tu, grand-maman? Est-ce le temps ou les hommes qui n'ont plus le temps de passer? Sur les branches, des oiseaux sur les feuilles, et qui chantait. Qui as-tu, grand-maman? Est-ce le temps ou les hommes qui n'ont plus le temps de passer?
Jamais pris autant de plaisir à parler de Troie que dans cette émission avec Priscilla. Et oui, c'est le moment de notre chronique juridique. Bonjour Priscilla.
Bonjour et salut mes commissaires de The Police. Roxanne ! Avant de commencer la chronique de ce jour, il faut que je vous avoue quelque chose. Je suis devenue totalement accro au bubble tea goût spéculoos. Ça m'oblige à être toujours à moins de 15 mètres des toilettes. Je ne promets pas de finir cette chronique au sec. Le thème de cette semaine est « Nul ne peut s'enrichir au détriment d'autrui ». Le fait de s'enrichir au détriment d'autrui était appelé autrefois, soit au temps d'Ariel Dombal, l'enrichissement sans cause. Cette notion d'enrichissement sans cause n'existait pas dans le Code civil de 1804. Oui, j'ai bien dit 1804, les jeunes de la génération Z, tard l'époque. Et pour ceux d'entre vous qui se posent la question, oui, ils avaient le Wi-Fi en 1804, sauf que ça avait des ailes et un bec, on appelait ça les pigeons voyageurs. Et non, je n'étais pas encore née à l'époque.
Merci pour cette explication si pertinente Priscilla, mais c'est quoi le code civil?
Cher Margot, le 30 ventose en 12, mes bébés génération Z, ça correspond au 21 mars 1804, premier jour du printemps, signe du poisson ascendant, tu vas te faire niquer par les Anglais, Napoléon. Eh bien, ce jour, notre Bonaparte, premier consul, le Tugman en chef, quoi, il ordonne au KLM la réunion de toutes les lois civiles, donc celles concernant les droits des personnes et des contrats, en un seul document, le Code civil des Français. Fin de la parenthèse génération Z, pour le moment. Donc, mes défenseurs de la veuve et du maître chien, le principe de l'enrichissement sans cause n'était pas prévu à l'origine dans ce Code civil, mais c'est la Cour de cassation qui a créé ce nouveau type de quasi-contrat en érigeant en principe général du droit la règle selon laquelle nul ne peut s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, même pas Jeff Bezos. Depuis 2016 et la codification de ce principe à l'article 1303 du Code civil, il faut désormais dire « enrichissement injustifié ». Oui, en droit comme en politique, on aime bien modifier les noms pour faire croire qu'on change, donner une meilleure image, mais en fait, non. C'est bonnet blanc, blanc bonnet, Front National, Rassemblement National. Oui, je sais, j'ai perdu la génération Z avec l'expression bonnet blanc, blanc bonnet. Bon, bah, en gros, pour vous, c'est ce que Balek.
Mais tout ça ne nous dit pas concrètement ce que ça veut dire que l'enrichissement s'en cause.
Oui, eh bien Margot, en l'espèce, nous avons deux bougres, deux bolosses. La pauvrie d'un côté, aussi appelée misquine, et l'enrichi de l'autre, aussi appelée michto. L'enrichissement sans cause est donc l'acte par lequel une personne, l'enrichi michto, s'enrichit donc au détriment d'une autre, le misquine, sans que cet enrichissement puisse être justifié. Celui qui s'est appauvri peut donc se retourner contre celui qui s'est enrichi pour obtenir réparation. Sorte d'équité, quoi. Ah oh mince, à chaque fois je confonds équité et équidé. L'action de l'appauvri misquine contre l'enrichi michto est classiquement appelée action de in rem verso. Rien à voir avec l'astrologie, verso, tout ça. Non, c'est du latin. On peut traduire ça par le retour de la chose à celui à qui elle appartient vraiment. Encore une fois, on notera la concision du latin, à ne pas confondre avec la circoncision du latin. Dans les deux cas, on tranche, mais dans le second, ça fait un peu plus mal à l'italien. L'enrichissement est ainsi injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri, ni de son intention de donner.
Mais vous pouvez résumer un petit peu ?
Eh bien, il faut un gadjo un peu rapta qui s'est fait ken par un autre gadjo un peu moins cake, sans raison valable. Bon, je vous sens un peu perdu là, comme un douanier sans ERS ou un CRS sans LBD. Je veux que je vous donne des exemples, là, je sens. Je cherche de quoi ou de qui pourrais-je parler pour illustrer mon propos. Mettons, au hasard, Monsieur Patrick Balkany, ancien maire de Levallois à Perépa. En 2020, pour fraude persistante et un enrichissement au détriment de la collectivité, la Cour d'appel de Paris a alourdi la peine de Patrick et sa femme tout aussi fringante Isabelle Balkany, ancienne figure de la droite française, condamnée donc en appel respectivement à 5 et 4 ans de prison ferme. En l'occurrence, les Balkany étaient poursuivis pour avoir dissimulé 13 millions d'euros d'avoirs au fisc entre 2007 et 2014, notamment de somptueuses villas à Pamplemousse. Purée, certains mois, je peux même pas me payer le fruit, eux, ils peuvent se payer une villa là-bas. Ils ont aussi dissimulé une maison à Saint-Martin ou à Marrakech, mais sans Jamel Debbouze, ce qui est plutôt un avantage pour la revente. En effet, il n'y avait pas de justification à la masse de moula accumulée par les Balkany, donc les enrichis, au détriment de l'État, l'appauvri, qui n'a pas pu récolter les impôts afférents.
Alors est-ce...
Bon, en fait, non, Margot, je suis de mauvaise foi. Une fois n'est pas coutume. Ce n'est pas de l'enrichissement injustifié au sens civil ici, mais c'est du pénal. Ah, mais c'était trop tentant, je sais, je suis une vilaine fille. Bon, pour un véritable exemple civil, imaginons, Margot, que vous ayez financé l'élargissement du pénis de votre ex-fiancé. Pure fiction, bien sûr. Il est parti, et face à cette situation d'impuissance, vous estimez qu'il doit vous rembourser. Ce d'autant plus que vous ne lui avez même pas explosé les roubignoles lors de la rupture. Vous méritez donc amplement une indemnisation pour ce calme olympien et pour les sommes versées. Toute ressemblance avec une situation où des personnes existantes serait une pure coïncidence. Oh non, ça y est! La chaise est trempée, je me suis fait pipi dessus, fichu bubble tea. Pour conclure, mes chers avocats du Mexico, Mexico, restons sur nos gardes, car il est aisé de se faire rouler dans la farine d'épeautre par un beau parleur ou un truandeur, chou raveur pour mes petits aides, et ainsi que dans la fable du corbeau et du renard. Mais sans en faire tout un fromage, vous ne pourrez pas dire le contraire, car je vous aurais prévenu.
Merci Priscilla, je vais vous laisser régler votre petit souci bubble tea. Merci beaucoup.
La JT du local est terminée pour aujourd'hui. Merci à Jézabel d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à Priscilla, Lucie et Lise. Nous, on s'arrête ici, mais ça continue sur l'autre radio et votre soirée est une soirée cinéma sur nos ondes.
Ça commence à 19h avec Le Masque et la tronçonneuse. Chaque mois, l'émission revient sur un film ou un thème précis et décortique avec vous, chers auditorices. Le Masque et la tronçonneuse traversent le grand écran.
Et on continue avec Quand la musique est bof à 21h.
Quand la musique est bof?
Oui, Lise, en fait, quand la musique est bof, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Enfin, c'est ce que je peux te dire, c'est qu'on se plonge dans la BO de films du grand écran à tous les coups. C'est encore une très belle journée sur l'autre radio. Nous, on se retrouve demain pour la dernière émission de l'Agité du local de la semaine. D'ici là, pour reprendre un peu Lucie, mangez 5 fruits et légumes. Un conseil inattendu pour cette fin d'émission, je ne vous le ferai pas dire. Pour le dire autrement ou un peu plus joliment, prenez soin de ce corps qui vous porte tous les jours parce que c'est aussi lui qui vous permet de faire le bien.
Mimi, tu crois que c'est fini ?
Quand elle dit au revoir, bah c'est que c'est terminé.